Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un écrivain, d'un auteur dramatique qui a eu son heure de gloire, disons, entre avant la Deuxième Guerre mondiale et après, et il s'agit d'Armand Salacrous. Armand Salacrous qui a été le secrétaire de Charles Dullin, il est né en 1899 à Rouen, il est mort en 1989 au Havre, donc relativement assez âgé. Il a présidé le Festival de Cannes en 1963. Il est entré à l'Académie de Goncourt en 1949. Au cinéma, une de ses, disons, collaborations les plus connues, c'est le film de René Clair, La beauté du diable, dont il a adapté l'histoire. Et je répète, les pièces de lui qui ont eu un succès confortable. En 1936, L'inconnu d'Arras. En 1938, La terre est ronde. En 1960, Boulevard Durand. Est-ce qu'aujourd'hui, Armand Salacrous serait encore jouable? Je n'en suis pas persuadé, quoique, après tout, sait-on jamais. Mais c'est intéressant de voir ces gens qui ont eu beaucoup de succès, qui, puis, la société évoluant, ont quitté peu à peu le devant de la scène. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce qui, sans être vraiment géniale, pose quand même une question fondamentale. Cette pièce, c'est Une femme trop honnête. Elle a été créée en 1957 avec Sophie Desmarais dans le rôle principal. Et le sous-titre de la pièce, c'est L'école de la mauvaise foi. Alors, quelle est l'histoire? Oh, l'histoire, elle est relativement simple. Une épouse, qui, et ce n'est sûrement pas hasard, s'appelle Marie-Madeleine, elle est licenciée en philosophie, elle a épousé Albert, qui est garagiste et gagne bien sa vie. Seulement, voilà. Marie-Madeleine trompe son mari. Le problème, c'est que elle ne supporte pas cette situation. Elle se veut une femme honnête et ne supporte pas l'idée que son mari puisse apprendre qu'elle n'est pas une femme honnête. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? La question n'est pas forcément métaphysique, mais elle est quand même importante. Et Marie-Madeleine a trouvé une solution radicale, peut-être pas forcément très morale, puisqu'elle est une femme trop honnête, qu'elle ne supporte pas l'idée que son mari puisse apprendre qu'il est trompé, ou pour faire plus court, qu'il est cocu, elle décide de faire tuer son mari. Le mari disparu, elle redevient une femme honnête, puisque elle ne peut plus tromper un homme qui est mort. Alors voici, au début de la pièce, la façon dont elle représente les choses à son amant. L'amant s'appelle Jacques. Marie-Madeleine, Jacques. Jacques, réponds-moi. À tes yeux, suis-je une femme coupable ? Jacques, excédé. Encore une fois, non. Et puis, de notre côté, dans notre époque, tout le monde est coupable, et avant tout, en premier lieu, les juges. Marie-Madeleine, je changerai de formule pour t'obliger à répondre. À tes yeux, suis-je une femme pure ? Jacques, tu es une femme qui me plaît, et ça me suffit. Et la pensée d'Albert ne te trouble pas, Albert étant le mari. Jacques, oh, rassure-toi, pas du tout, je peux te le jurer. Marie-Madeleine, quand tu es près de mon mari, que tu le regardes, je ne suis pas jaloux. Eh bien moi, les remords m'étouffent. Et ces remords me conduisent dans un drame. J'ai peur, Jacques. Touche mes mains, elles tremblent. Je te l'ai déjà dit, puisque tu ne peux pas vivre une seule minute sans que ta cervelle fonctionne et que ça t'empêche bête de penser à ton mari, eh bien, pense à moi, rien qu'à moi. Mais tu ne comptes pas, toi. Alors où est le drame ? Je ne peux plus vivre ainsi avec tous mes remords sous le regard calme de mon mari. Écoute, je suis encore en France pour 10 jours. Tu ne vas tout de même pas me laisser en panne pendant ces 10 derniers jours. Jacques, essaie de me comprendre. Je ne peux plus supporter le regard si doux d'Albert, le lourd regard de mon pauvre Albert. Mais lourd de quoi ? Il ne sait rien, il ne se doute de rien. Voilà ce que je ne peux pas supporter. Sa confiance. Une femme comme toi, je n'en avais jamais rencontrée. Après tout, si tu as une vieille cousine malade à soigner dans un pays possible, je t'accompagnerai. Non. Fais-toi donner une cure de solitude dans une ville d'eau agréable pour détendre tes nerfs, je t'y conduirai. Non. Je ne vois, hélas, qu'une solution. Laquelle ? Et ma décision est prise. Tu peux m'en faire part ? Où est mon crime ? Un crime ? Parce que tu me plais. Où suis-je coupable ? Je ne sais pas, moi. Quand tu viens dans mon lit. Tu ne comprends rien au problème de morale, mon amour. Je suis coupable dans la conscience d'Albert. Mais puisqu'il a la conscience tranquille d'un mari, normal, qu'il ne sait rien. Mais moi, je sais. Et sa conscience, je la vois toute prête à bondir sur moi pour me juger. Oh, ma décision est prise, je te le répète, je l'ai prise dans le désespoir. Pauvre Albert. Mais il n'est pas à plaindre, je m'en vais dans 10 jours. L'idée que j'ai trompé Albert m'est intolérable. Pense à autre chose. Comment oublier mon péché, c'est-à-dire ma honte, c'est-à-dire mon remords. Je ne peux plus le supporter. Ce remords doit disparaître. Si tu retrouves ainsi ta tranquillité, moi je veux bien. Alors, comment tu l'effaces ton remords ? Hélas, il n'y a qu'une solution. Effacer Albert. Effacer Albert. Puisqu'Albert est mon remords vivant et que je ne veux tuer mon remords, quand Albert ne vivra plus, il a une santé de fer. Les santés de fer, on peut en venir à bout, c'est un détail d'exécution. D'exécution. Le moyen d'agir autrement. Alors ta petite cervelle agitée a rêvé d'assassiner Albert. Ce n'est pas un assassinat, c'est la suppression d'un remords. La suppression d'un remords. Ah, ces intellectuels, on m'en avait parlé, je n'en avais jamais rencontré, mais ça valait le voyage. Ainsi, après ton crime, en prison, tu te sentirais innocente. De quelle prison parles-tu ? Et qui te parle de crime ? J'ai simplement imaginé un accident organisé. Tu plaisantes. Un accident très bien organisé. Écoute-moi calmement. à cause de mes affaires à trancher et de mon goût de passer inaperçu, il m'est absolument impossible que j'accepte d'être mêlé, même de très loin, à une affaire criminelle. Et tu ne penses qu'à toi quand je t'explique mon désir éperdu de retrouver ma pureté morale. Je vous propose une première pause musicale.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
Nous continuons sur la scène de Une femme trop honnête d'Armand Salacrou, alors que Marie-Madeleine est en train d'expliquer à son amant Jacques pourquoi elle va faire tuer son mari. S'il n'était pas mon mari et si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas à le faire mourir demain. Demain, c'est demain l'exécution avant midi. Avant midi, mais je t'en empêcherai. J'avais d'abord pensé à te demander de tirer le coup de feu. Le coup de feu. Oh, c'est un tout petit geste de l'index, je le retournerai après. Mais, comme après l'accident, Joséphine racontera au gendarme que je te rejoins dans ta chambre dès que j'ai endormi Albert avec du Véronal, tu aurais été tout de suite soupçonné. Et pour le crime, tu recommandes la dose, le crime. Tu emploies des mots dont tu ignores le sens. Un problème est posé qui ne comporte qu'une solution. Est-ce ma faute? Et tu vas opérer toi-même? Non. dans le pan prévu, je n'aurai qu'à pleurer. D'ailleurs, mon chagrin sera très sincère. Et tu as embauché pour te remplacer un spadassin ? Un spadassin ? Mais n'emploie pas toujours des mots dont tu ignores le sens. Tu as découvert un ennemi intime d'Albert qui le déteste, qui désire sa mort. Oh mon amour, tu n'es pas doué, mais pas du tout. Un ennemi d'Albert pour le tuer, mais ce serait absurde. Les policiers sont si conventionnels qu'ils seraient tout de même arrêtés, non. J'ai organisé un accident avec de vrais personnages d'accident. Entouré de ses meilleurs amis, naturellement. Sauf toi qui serais soupçonné. Tu ne seras pas même témoin de l'accident. Et l'un d'eux tuera comme ça demain son vieux camarade d'enfance pour te faire plaisir. Pour me faire plaisir, mais non. Il me prend très cher. Parce que lui aussi aura beaucoup de chagrin. Tous les louis d'or qu'Albert voulait te confier pour les cacher à Tanger, il les exige alors. Je les lui donne. Il est difficile de discuter un tel contrat, les tarifs sont peu connus. Mais tout le monde va être si content. L'ami d'Albert qui touche ce gros lot inespéré. Toi, qui mourras tout à toi, sans trouble de conscience. Moi, qui n'aurai plus honte devant mon mari. Et ton mari, il sera content lui aussi, puisqu'il sera mort et sans souffrir. Oui, je me suis arrêté à un projet de mort subite. Par arrêt du cœur, obligatoirement, mon amour en aboutit toujours à l'arrêt du cœur. Mais dans mon plan, on y aboutit tout de suite, on essaiera même de commencer par là. Encore une fois, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas être mêlé à une enquête policière. Si mon trafic d'or est honnête, naturellement, il n'est pas légal, puisque de nos jours, la légalité et l'honnêteté sont toujours en contradiction. Mais tu me dis ça, moi, mais je le sais mieux que personne. C'est pourquoi tais-toi, je ne veux rien écouter. Alors tu le diras dans les journaux, mon trésor, dans la chronique des faits divers, car j'ai choisi un vieux truc oublié, et comme les policiers n'ont aucune culture, ils ne le connaissent plus, un accident de chasse. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de m'aller demain matin à la chasse. C'était pas pour venir me dire bonjour dans ma chambre. Alors, afin que les gendarmes me dénigent dans ton lit quand ils ramèneront ici le corps du pauvre Albert sur une civière. Oh, quelle horreur! Parce que je raisonne comme un général à la veille d'une bataille quand il s'informe du pourcentage des pertes possibles. Alors, il n'y a pas de crime parfait. Je l'ai lu quelque part, donc quelque chose clochera. Non! J'ai déjà rédigé le fait divers comme un journaliste afin de me rendre compte. Eh bien, dans mon compte-rendu, rien ne cloche. Albert part à l'aube avec Roger. Mais Roger te dénoncera pour se faire arrêter. C'est tout de même pas Roger qui demain... Que veux-tu ? Il a besoin d'argent comme moi, j'ai besoin de tranquillité morale. Son ami d'enfance. Qui donne à l'amitié dans la vie un prix. Oui, un très gros prix. Et voilà pourquoi il me demande 5 000 louis. À quoi bon se lamenter, c'est cher, mais... Essayons plutôt de considérer les choses avec simplicité. Tout est sophistiqué de nos jours, alors essayons de retrouver dans la simplicité l'espoir d'un avenir meilleur. N'est-ce pas réconfortant, une action simple, humaine, qui se déroule clairement? Bon, moi, je pars tout de suite pour l'Afrique, je reviendrai en France plus tard quand on parlera d'autre chose. Non. Tu resteras ici, et plus tard, quand j'aurai reconstruit ma pureté, tu m'épouseras, car je veux redevenir une femme honnête qui n'aura connu dans sa vie que deux hommes, et l'un après l'autre, avec au moment de la rencontre une frange un peu hésitante. Crois-tu que je me sois maintenu jusqu'à l'âge de 40 ans célibataire pour être... N'achève pas, mon amour. Tu es à mes ordres. Regarde-moi. J'ai un revolver. Tu n'aurais pas bouclé tes valises que je t'aurais déjà tué. Albert, et j'aurais dit avouer au policier que j'étais envoûté par toi, que j'étais une femme tranquille, vivant près de son mari bien-aimé, ce qui est vrai. Je révélerai demain, ensuite, qu'un lundi vers minuit, tu m'as prise de force, ce qui est encore vrai, que j'ai été absolument stupéfaite du résultat, ce qui est toujours vrai, si vrai que je t'ai demandé de recommencer. Et le résultat stupéfiant se renouvelant chaque fois, j'ai continué. Tout ça n'est-il pas la vérité, mon chéri? Alors, j'ajouterai que tu m'as poussé au crime. Ce qui deviendra vrai si, empêchant Roger de remplir son contrat, tu m'obliges à opérer moi-même ce pauvre Albert. Réfléchis. Le destin d'Albert sera le même. Il ne peut pas changer puisque je ne peux plus supporter son regard confiant. Mais ton destin à toi sera bouleversé. Tu auras tous les embêtements. Alors que je te demande simplement de faire demain la grasse matinée en attendant dans ton lit sans impatience le retour de la chasse. Ô femelle démoniaque, eh bien comme psychologue, je me félicite. Mais bon sang de bonsoir, vous sembliez pourtant un ménage bien uni, confortable, sans histoire. Avant ton arrivée, quand je n'avais pas de remords, tu étais agréable, ton mari sympathique, bon prix de gens, on mangeait mal chez toi, mais je vous emmenais au restaurant, les vacances allaient finir dans 10 jours, je partais content. Oh, j'aime trop Albert pour supporter l'idée qu'il puisse apprendre ma trahison. Entre Roger, l'ami. Non, Roger, ne vous éloignez pas. Nous avons encore des détails à régler pour demain matin. Jacques, bien moi, monsieur, le regard d'un homme ne m'a jamais effrayé. Je vais vous regarder dans les yeux, je vais vous le dire toute ma pensée. Je suis complètement déconcerté. Roger, moi aussi, monsieur. Marie-Madeleine à Roger. Oh, Jacques est au courant de notre arrangement. Vous, son ami, n'êtes-vous pas aussi le sien? Laissez-moi vous dire, monsieur, que je n'aurais jamais accepté l'idée de tuer mon ami. Mais vous avez accepté l'occasion de le déshonorer. De nos jours, monsieur, le déshonneur ne déshonore plus personne. Et si déshonneur il y a, Albert l'ignore. Mais il ignorera aussi sa mort. Elle sera subite, Roger me l'a promis, n'est-ce pas Roger? Et l'un comme l'autre, je ne veux pas que vous vous énerviez. Mon petit Jacques, n'oubliez pas mes paroles. Si vous vous éloignez de la maison, ce sont les gendarmes qui vous ramèneront. Et Albert n'aurait même pas la joie d'une dernière partie de chasse, lui qui aime tant chasser. J'ai déjà tout oublié, je vous prie de souvenir que je suis au courant de rien. Roger, mais monsieur, moi aussi, j'ai déjà tout oublié. Sans cela, croyez-vous que je pourrais tolérer chez mon ami la présence de l'amant de sa femme? C'est un comble. Mais sachez, monsieur, que je me sens moins coupable à ma place qu'à la vôtre. Mon petit monsieur, serais-je à ma place, comme vous dites, si vous ne vous étiez pas mis d'abord à la vôtre? Marie-Madeleine, si vous entrez dans la chaîne des responsabilités, nous en avons pour l'éternité. En bref, le vrai coupable au début de la chaîne, c'est Albert. Si Albert ne m'avait pas épousé, Jacques ne l'aurait pas trompé. Et ainsi, Roger ne serait pas contraint demain à l'aube d'aller à la chasse. Une chasse à l'homme. Parce que d'abord, vous avez chassé la femme. Allons, va te reposer, Jacques. Et pense pour te calmer à notre avenir, à tous les deux, enfin réunis. Parce que vous l'épousez après? Je serai bien obligé, je vais être une femme honnête à n'importe quel prix. Vous ne pouvez pas ignorer que la situation de mari de notre ami n'est pas une situation exempte de danger. Sans relation, je n'ai pas redouté la sollicitude, monsieur, d'un camarade à France qui place l'amitié au-dessus de tout. Et alors, le lendemain, bien sûr, a lieu la partie de chasse. Roger loupe son coup, mais comme il a tiré, il veut garder l'argent. Albert finit par apprendre Bah, qu'il est un homme trompé. Alors, que reste-t-il comme solution ? Eh bien, pour retrouver son statut d'honnête femme, Marie-Madeleine ne trouve qu'une solution. Elle dit adieu à Albert. Et elle décide de partir avec Jacques, qui n'en a pas du tout envie. Et voici la fin de la pièce. Puisque Marie-Madeleine qui parle, puisque vous voulez que je laisse vivre Albert, aidez-moi. Je veux rester maîtresse du futur de mon passé qui vit dans le cœur de cet homme. À l'instant même où je serai honnête au coin du feu, près de mon mari bien-aimé, un homme respirerait de l'autre côté de la terre avec les images et les bruits de mes baisers, c'est impossible. Et tandis que je serai ici, fidèle à mon mari, fidèle, Jacques penserait dans sa solitude, était tout de même pas mal, la petite Marie-Madeleine. Ah non, 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 je ne laisserai pas Jacques partir avec l'image de mon corps à sa libre disposition, non. Je ne le laisserai pas se repaître à sa guise de mes gestes morts, non. Je ne le laisserai pas rêver à moi sans surveiller moi-même ses rêves. Vous contraignez à le laisser vivre. Mais alors, contraignez-moi aussi à le suivre toujours, hélas, partout, jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout de sa vie. Albert le mari, Marie-Madeleine, tu veux le suivre? Comme une petite caresse, suit un chacal. Jacques, l'amant, mais je ne veux pas qu'elle me suive. Mon manteau de panthère. Tu me connais trop, Albert. Jamais je n'aurais pu tolérer près de toi une femme qui, dans le même temps, eût gambadé toute nue dans la cervelle de cet homme sans ma surveillance. Prends tendrement soin de nous, si cher Albert. Jamais mon âme ne quittera ton âme. Et dès que ces souvenirs seront éteints, je reviendrai près de toi, vivre notre éternel amour. Je ne veux rien emporter que ton image, Albert. Et vous, prenez votre valise. Marie-Madeleine, plaignez-moi. Ma vie est gâchée, ne l'aurais-je pas dit au début de cette histoire. La pureté, à n'importe quel prix. Toutes les honnêtes femmes me comprendront. Tu crois ? Marie-Madeleine à l'amant, passez devant et perdez toute espérance à son mari. Je ne te dis pas adieu, mon Albert. C'est près de toi qu'en esprit je reste. Oh, ma fille est avant tout une femme honnête. Trop honnête. De nos jours, tout est possible. Je vous remercie de m'avoir écouté.